Les paractualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye au micro de Canal M. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2016. Les titres de ces paractualités. Un plan d'action en accessibilité universelle à Verdun, dans l'arrondissement de Verdun donc. De l'espoir pour les leucodystrophies. Également l'ouverture de la clinique orthophonie réadaptation Outaouais. Et puis cette nouvelle, au Newbie, le cannabis est-il traité comme un autre médicament? Quand je vous dis au Newbie, c'est au Nouveau-Brunswick, et bien sûr, dans les foyers de soins. Et puis la fondation Milos Raonic qui aide plus d'enfants ayant un handicap à être actifs dans des sports. Deux entrevues encore aujourd'hui, d'abord avec Diane Bergeron, coureuse non-voyante et directrice générale, relations stratégiques et mobilisation à l'INCa. Et également Marc Saint-Onge, directeur de l'association québécoise pour le loisir. Des personnes handicapées. Alors c'est avec beaucoup de fierté que le maire de l'arrondissement de Verdun, M. Jean-François Parenteau, et les membres de son conseil ont procédé hier soir au dévoilement et à l'adoption du plan d'action en accessibilité universelle de Verdun. Ce plan est le résultat d'une réflexion mûrie par l'administration verdunoise en collaboration avec les partenaires du milieu. Offrir à tous nos citoyens la capacité de se déplacer et de s'épanouir dans un environnement accessible était l'une de nos priorités à notre entrée en fonction en 2013. Avec ce plan d'action, nous engageons Verdun dans une voie innovante en matière d'accessibilité universelle, explique le maire de l'arrondissement, M. Jean-François Parenteau. Le plan d'action vise à offrir un milieu de vie sans obstacle à tous les citoyens, particulièrement à ceux et à celles qui doivent composer avec des limitations fonctionnelles. Il s'adresse aux citoyens qui éprouvent des difficultés, apparentes ou non, sur les plans moteurs, auditifs, visuels ou intellectuels, ainsi qu'aux parents avec enfants et poussettes qui rencontrent des obstacles dans leurs déplacements. Les actions incluses dans ce plan d'action s'articulent autour de trois axes qui appellent à la mobilisation des employés d'arrondissement ainsi que des partenaires communautaires publics et privés. L'objectif est de rendre accessibles les édifices publics, les logements et les commerces et de mettre les principes d'accessibilité au cœur des programmes et services en sport, loisirs et culture. Chacun des axes identifiés, soit architecture et urbanisme, programmes et services ainsi que sensibilisation, formation et communication propose une série d'actions concrètes qui s'étendront sur une période de 5 ans. De la maison à la rue, au commerce, en passant par nos édifices municipaux et nos parcs, nous sommes convaincus que ce plan d'action contribuera à faire de Verdun un modèle sur le plan de l'accessibilité universelle, a conclu le maire Parenteau. Il y a 10 ans, les parents d'Alexis Verville-Tailleur mettaient sur pied la fondation Leucodystrophie dans le but de trouver un remède à la maladie génétique de leur fils. Aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une équipe de chercheurs a trouvé un traitement prometteur. Aujourd'hui, âgé de 17 ans, Alexis n'a pas toujours été dans sa condition actuelle. C'est au fil du temps qu'il a perdu sa motricité au point où il suit aujourd'hui ses cours allongés sur une civière à l'école. Alexis comprend tout ce qu'on lui dit, mais il n'est pas en mesure de répondre. Incapable de déglutir, il est nourri par gastrotomie. Les leucodystrophies sont un groupe de maladies génétiques qui affectent la myéline, aussi appelée matière blanche du système nerveux central. La myéline a pour fonction d'isoler les nerfs du cerveau, ce qui permet aux signaux électriques de bien circuler dans le système nerveux. Les leucodystrophies affectent la formation et le maintien de la myéline, ce qui en résulte en une détérioration des fonctions de l'enfant. Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives qui sont mortelles à court ou à moyen terme. Une équipe de chercheurs de l'Université à Montréal a découvert les gènes de la forme québécoise de la maladie et entrevoit maintenant la possibilité d'un traitement. L'équipe veut aller chercher des cellules souches dans la moelle osseuse des patients pour en faire des cellules productrices de myéline. Ces cellules seront étudiées en laboratoire pour voir comment elles se développent. Et évidemment, il faudra encore plusieurs années avant qu'on fasse quelques tests sur des humains. Vous vous en doutez bien, mais comme le dit la maman d'Alexis, Marjolaine Verville, si on stoppe l'évolution de la maladie, ce serait déjà énorme, ce serait déjà magique. « Et je vais maintenant m'adresser à Diane Bergeron. Diane Bergeron est non-voyante et c'est aussi une femme qui court, mais qui ne court pas pour n'importe quel motif. Et puis, Madame Bergeron est également directrice générale relations stratégiques et mobilisation à l'INCa. Bonjour Madame Bergeron.
Bonjour.
Je suis ravie de vous parler. Madame Bergeron, vous vous préparez à un événement assez spécial. Vous allez courir. C'est bien ça?
Oui, je vais courir au Disney, Walt Disney, à Floride.
En Floride. Et vous allez courir combien de kilomètres?
78.
78 kilomètres en 4 jours.
Oui, c'est ça.
Heureusement que c'est en Floride, parce qu'au mois de janvier, on n'est pas tellement sûr de la température ici. Hein?
C'est ça.
Dites-moi, Madame Bergeron, est-ce que c'est la première fois que vous relevez un tel défi?
C'est la première fois que je fais une distance comme ça. J'ai fait une marathon, 42 kilomètres au commencement d'octobre cette année ici.
Ah oui?
Oui.
À Montréal?
Non, c'est à Corning, New York.
D'accord.
Oui.
OK. Et est-ce que vous avez un partenaire de course?
Oui, j'ai une amie qui s'appelle Corey. Elle est mon guide. Puis elle m'aide quand je courir.
Ah oui, mais elle vous aide comment? Ben, elle court avec vous?
Oui, juste à côté de moi. On prenait les mains, puis on courait à côté de... Je courais à côté de Corey, oui.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit aussi entraînée, elle.
Oh oui, mais elle entraînait aussi avec moi maintenant parce que je vais faire aussi la semaine prochaine le Ironman Mont-Tremblant.
Non.
Oui, dans la semaine prochaine.
Et avec elle aussi?
L'année prochaine.
Ah, l'année prochaine.
Oui.
Et avec le chien aussi?
Non, pas avec le chien, avec mon ami Corey, avec mon guide.
D'accord. Et pourriez-vous nous informer, Madame Bergeron, qu'est-ce que le Walt Disney World Resort à Orlando?
C'est un parc pour amusement. Il y a 4 parcs et le course va faire tous les parcs. Mm-hmm. Le premier jour, c'est dans un parc et chaque jour, tu allais à un autre parc. Et la dernière jour, c'est le marathon, c'est 42 kilomètres, la dernière jour, le dimanche.
Oui.
Puis celle-là va dans toutes les 4 parcs.
Qu'est-ce qui vous a amené à courir comme ça, à vous dépasser, Madame Bergeron?
Je m'excuse.
Je sais qu'il faut que je parle très doucement. Je vais reprendre ma question. Ça fait longtemps que vous courez comme ça et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de courir?
J'ai commencé à courir juste 5 années passées. Quand je suis 47, j'ai commencé de courir parce que je veux faire un peu d'exercice. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai courir. Alors, c'est pour ça que je fais ça à ce moment-là.
Parce que déjà, courir pour une personne voyante, bon, ce n'est pas évident. Pourquoi pas quand on est non-voyant? Mais j'ai toujours peur, moi, par exemple, les trous dans les rues, c'est pas facile, ça.
Non, c'est un peu difficile. Ben, c'est difficile de courir pour tout le monde.
Oui.
Mais pour moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement sur le treadmill. Puis
OK.
Si je veux aller dehors, parce que je dois aller dehors d'entraîner pour une course comme ça à Disney, j'ai beaucoup d'amis, j'ai 5 personnes qui sont mes amis qui peuvent m'aider et mm-hmm. être un guide pour moi. Et je entraîne comme ça.
D'accord. Alors, Madame Bergeron, vous avez joué un rôle important dans la mise au point de l'afficheur Braille Orbit. Quel rôle avez-vous joué?
Le rôle que j'en ai est que je fais le design avec les autres personnes. Il y a des personnes aveugles qui donnent leur
opinion, leur
oui,
avis.
C'est ça,
d'accord.
Advice, oui.
D'accord.
Et aussi, j'ai aidé avec la production et les négociations pour les personnes ici au Canada d'avoir cette machine. Parce que le Orbit, c'est une machine de bras qui est moins chère que les autres.
C'est ça. Nous en avons parlé déjà ici avec Madame Rouleau, si mes souvenirs sont bons, de cette machine-là, parce que on trouve ça fantastique que ça puisse exister à un prix relativement compétitif, quoi.
Ça va donner les personnes aveugles plus choix pour liser.
Bien sûr.
Et la chance pour les personnes qui habitaient en Afrique. À ce moment, il y a moins que 1% des livres qui est là pour les personnes qui est en voyant. C'est juste 1%.
Voilà. Et c'est donc pour cette mission-là, Madame Bergeron, que vous allez parcourir 78 kilomètres en 4 jours. C'est pour rendre la lecture accessible au Rwanda, c'est ça, hein?
C'est ça. C'est une école pour les enfants qui sont aveugles.
D'accord. Parce que là-bas, il n'y a qu'un seul pourcent, 1% seulement de livres accessibles. C'est bien ça.
C'est ça. Et moins que 10% des enfants aveugles dans l'Afrique a la chance d'aller à l'école. Alors, ces enfants-là vont avoir une chance plus bonne que les autres.
Bien sûr, parce qu'ils vont bénéficier de cette petite machine-là, notamment.
C'est ça.
Écoutez, Madame Bergeron, comment peut-on vous supporter dans cette course pour finir?
Vous pouvez me supporter d'aller sur le site web et donner un don sur ma page. Et je pense que Sarah à INCA va t'envoyer un link pour votre site web.
D'accord. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'INCA?
Pardon?
Il faut aller sur le site web de l'INCA, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Eh bien, écoutez, Madame Bergeron, bonne chance.
Merci
pour la course.
Beaucoup. Merci.
Et puis bravo pour cette initiative et bravo pour ces jeunes.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, passez une belle journée, Madame Bergeron.
Toi aussi.
Au revoir. La clinique Orthophonie Réadaptation Outaouais, vous aurez compris que nous sommes en région, elle est située au 683 avenue de Buckingham. Elle a procédé à son ouverture officielle. La propriétaire et orthophoniste Marie-Josée Lapointe estime qu'il y a un réel besoin pour ce genre de service dans le secteur. On est la seule clinique qui offre des services d'orthophonie dans l'Est de Gatineau. Notre but, c'est de desservir les enfants et les adultes de l'Est de Gatineau, de la Petite Nation et de la MRC de Papineau, dit-elle. Je n'étais même pas encore ouverte officiellement et j'avais déjà des références et des rendez-vous. Il y a définitivement de grands besoins, car les services publics n'arrivent pas à combler, remarque celle qui a autant d'expérience avec les plus jeunes que les personnes plus âgées. Je peux aider tout ce qui touche au niveau à la communication, dit-elle, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Je peux aussi aider les enfants qui ont un spectre de l'autisme ou les gens qui ont un trouble de voix, explique-t-elle, et celle qui est présentement seule pour opérer sa clinique. Elle espère qu'après les fêtes, elle pourra engager une autre orthophoniste et même d'ici l'été engager une ergothérapeute. Mon but, dit-elle, c'est d'offrir tous les services pour que les gens n'aient qu'à se déplacer à un seul endroit. J'ai déjà un partenariat avec la librairie Rose-Marie et je veux vraiment m'impliquer dans la communauté, conclut celle qui a exercé son métier dans divers emplacements depuis 8 ans et qui a donc maintenant sa propre clinique. Et puis rapidement, le Carrefour Jeunesse Emploi Lobinière a organisé un 5 à 7 d'échange il y a une semaine de cela sur le thème de la persévérance scolaire. Réalisé en collaboration avec les partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches et la table de concertation en persévérance scolaire, cette activité a regroupé 45 personnes provenant notamment du milieu scolaire, municipal, de la santé et du communautaire, ainsi que des entreprises, des parents et des élèves. Deux intervenants du milieu, Robert Leclerc et Clément Ferland, bien au fait de cette réalité du décrochage, ont présenté le projet « Allô, je raccroche ». Ensuite, Pierre-Denis Fauché, des boîtes planchers PG, est venu présenter le plan de formation offert en entreprise. À la suite de la présentation des 3 conférenciers, le comité organisateur a proposé la mise en situation d'un jeune potentiel décrocheur. S'en est suivi un débat afin de trouver des solutions et de favoriser le taux de diplomation et la persévérance scolaire. J'ai, je pense, au bout du fil, Marc Saint-Onge, directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Bonjour, Monsieur Saint-Onge.
Bonjour, Madame Sey.
Monsieur Saint-Onge, les 8 et 9 novembre prochains, vous allez participer au colloque, je veux dire la QLPA, je vais participer au colloque pour une ville inclusive. C'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça, c'est le colloque pour une ville inclusive, innovation et partenariat organisé par le réseau international du processus de production du handicap.
D'accord.
RPH, oui.
Alors, ça, c'est donc 8 et 9, donc c'est demain et après-demain, et ça se passe
oui.
à Québec.
Ça se passe à Québec, à l'Université à Laval.
Quelle sera votre participation, votre rôle à ce colloque international, Monsieur Saint-Onge?
Ben, vous savez, le rôle peut être divisé en deux parties, si on peut
D'accord.
dire comme ça. On y va dans un premier temps pour écouter. Lorsqu'on s'intéresse à l'intégration, on s'aperçoit que c'est tellement dynamique. Hein, mm-hmm. Il n'y a rien de statique dans l'intégration, tout bouge. Et de pouvoir participer à un colloque international comme celui-là, ça nous met, à jour dans toute l'actualité. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se développe? Qu'est-ce qui se fait? Alors ça, c'est un premier pôle important pour permettre à l'ensemble de mon réseau d'avoir accès à toute cette information-là, donc de tisser de nouveaux liens avec de nouveaux partenaires, d'écouter, regarder qu'est-ce qui se passe en Belgique, en France, et d'une part. D'autre part, notre rôle, c'est de faire une présentation. On aime beaucoup pouvoir échanger avec les gens, pouvoir avoir des éléments de critique, des éléments de bonification sur des perspectives qu'on développe, et on fera une présentation.
D'accord. Et quelle est la représentation du loisir dans ce colloque-là, M. Saint-Onge?
C'est intéressant. Sur deux jours, on va parler du travail, on va parler d'aménagement, d'accessibilité physique à des lieux. Mais le 9, donc après-demain, on aura une section complète qui porte sur le loisir, le sport.
OK, d'accord.
Et la culture. Et à travers de ça, on aura quand même 14 conférences, une vingtaine d'intervenants qui vont traiter. C'est drôlement riche et intéressant qu'on puisse parler autant du loisir, qui est une sphère de vie hautement importante pour soutenir l'intégration des personnes, mais aussi soutenir leur satisfaction de vie.
Et vous-même, vous allez agir comme panéliste à une table ronde, j'imagine?
Oui, avec deux de mes collègues, Hélène Carbonneau de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Roger Quentin de l'Institut de réadaptation à déficience physique de Québec, on fait une présentation. La présentation porte sur l'expérience de loisir inclusive. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de loisir? En fait, de bien la comprendre, ça change des perspectives pour de nombreux intervenants. Quand on comprend bien qu'est-ce que c'est qu'une expérience de loisir, d'une part, mais inclusive, d'autre part.
Oui.
On va y traiter de déterminants. Quels sont les déterminants qui font que l'activité que je vais vivre, elle va être agréable? On va travailler à se donner une compréhension de quelles sont les gammes de possibilités de l'expérience de loisir. Parfois, il faut qu'il y ait une intégration absolue avec tout le monde. C'est fantastique, mais des fois, il pourrait y avoir des activités qui sont dites davantage ségrégées et on pourrait y vivre une expérience de loisir. Donc, de travailler sur cet aspect novateur-là, pour nous, c'est drôlement intéressant de comprendre d'autres perspectives que la nôtre, mais surtout de la présenter, la nôtre, parce qu'elle est relativement novatrice.
Mais d'après vous, Monsieur Saint-Onge, comment on pourrait inclure davantage les personnes handicapées dans le domaine du loisir, des sports aussi d'ailleurs, et de la culture?
Bien, tout le volet de l'accessibilité qui a une belle présentation présentement, qui a une belle couverture par les chercheurs, mais aussi médiatique, nous amène à penser sur deux pôles. Le premier pôle, c'est tout ce qui a trait à l'aménagement des lieux physiques. D'une part, il y a énormément d'importance qui est accordée à ça. Pour nous, la QLPH, l'Association québécoise de loisirs pour les personnes handicapées, on s'intéresse sur des dimensions que les travailleurs, les médiateurs culturels, que les animateurs de quartier ont un contrôle. Et on s'intéresse particulièrement à la programmation inclusive en loisirs. Alors, Là, ça devient intéressant. Comment on soutient l'inclusion, l'intégration des personnes handicapées? Vous savez, juste d'avoir un accueil favorable, déjà une personne a le goût de revenir.
Oui, oui, bien sûr. Bien
alors,
sûr.
Et là, on continue. Comment on fait pour faire l'appréciation d'une œuvre d'art, par exemple, à une personne handicapée? Et là, on fait prendre conscience que le point de vue, quand tu es quelqu'un en fauteuil roulant, est peut-être un peu différent de quelqu'un qui est debout. Mais donc, oui. On travaille avec les animateurs pour qu'ils comprennent davantage comment cette expérience-là se construit et comment on peut la répéter.
Et vous savez que dans quelques secondes, je vais aborder une nouvelle d'actualité qui, je suis convaincue, va vous réjouir. Vous la connaissez certainement. C'est que le Comité paralympique canadien annonce un outil en ligne novateur qui s'appelle « Trouver une activité » qui a été notamment amplement financé par la Fondation Milos Raonic pour aider plus d'enfants qui ont un handicap à être actifs, entre autres, en sport. Est-ce que vous saviez?
Ben, vous me l'apprenez.
Bon.
Cette partie-là, je suis heureux.
Mais oui.
Est-ce que c'est Milos qui sera présent?
Écoutez, je ne sais pas si Milos Raonic sera présent en tant que tel, mais je sais que c'est du moins ce que nous dit ce papier-là. Ça fait des années qu'il s'investit, mine de rien, parce
oui,
que
oui.
C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et de sparage, comme on dit, mais c'est quelqu'un qui agit. Et donc, il a créé cette fondation-là pour aider des enfants handicapés, notamment à bouger. Voilà.
Ah, oh, mais c'est fort intéressant. Je vais l'écouter.
Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus, Monsieur Saint-Onge. Rappelons que c'est demain et après-demain à Québec, ce colloque pour une ville inclusive, innovation et partenariat. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission Les Paractualités.
Mais c'est un grand plaisir pour moi, Madame Sey.
Allez, au plaisir.
Oui, au revoir.
Au revoir. Le cannabis est-il traité comme un autre médicament dans les foyers de soins? À l'heure où la consommation de marijuana médicinale se développe au pays, comment cette drogue est-elle gérée dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick? À l'heure actuelle, les patients ayant reçu l'approbation de leur médecin peuvent obtenir de la marijuana séchée et d'autres dérivés du cannabis auprès des producteurs autorisés ou en produire une quantité limitée pour leur usage personnel. Ces produits sont prescrits aux personnes souffrant de douleurs aiguës ou d'autres symptômes sérieux causés entre autres par la sclérose en plaques, une lésion de la moelle épinière, le cancer ou des formes graves d'arthrite. Le ministère du Développement social confirme que la consommation est possible dans les 66 foyers de soins de la province. À l'heure actuelle, dans nos foyers de soins, les résidents capables d'auto-administration peuvent utiliser la marijuana médicale sur ordonnance d'un médecin. Sans s'y opposer, le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick souligne le manque de données médicales probantes et donne certaines directives. Depuis 2014, l'instance chargée de contrôler les normes de l'exercice de la médecine demande aux professionnels de la santé d'avertir les patients des risques et des précautions à prendre. D'un autre côté, des chercheurs de l'Université McGill de Montréal ont démontré que le cannabis pourrait soulager les personnes atteintes de douleurs neuropathiques chroniques. Les nerfs endommagés de ces patients envoient des signaux erronés au cerveau qui répond par des signaux douloureux, difficilement traitables par les traitements pharmaceutiques traditionnels. Et puis, je viens d'en parler il y a quelques secondes avec M. Saint-Onge. Le Comité paralympique canadien est heureux d'annoncer que l'outil en ligne novateur « Trouver une activité » est maintenant actif grâce à une subvention de 30 000 $ de la Fondation Milos Raonic pour aider plus d'enfants ayant un handicap à être actifs dans les sports. Disponible gratuitement pour tous, si vous allez simplement sur le site web paralympique.ca, Find an activity, donc comme trouver une activité en anglais. L'outil est conçu pour aider les parents canadiens et les professionnels de la santé, de l'éducation, du sport et du loisir à avoir accès facilement à une multitude de ressources, de plans d'activité et de fournisseurs. Les ressources peuvent être classées selon l'endroit, l'âge, le genre d'handicap et les préférences sportives dans le but d'augmenter les occasions pour les enfants ayant un handicap dans la programmation sportive, ainsi qu'augmenter la sensibilisation pour le parasport. La Fondation Milos Raonic soutient les ressources pour les enfants désavantagés et a été établie en 2012 par la vedette canadienne de tennis. Prix Hommage Bénévolat Québec, la période de mise en candidature de la 20e édition du Prix Hommage Bénévolat Québec est maintenant commencée. Elle se terminera le 5 décembre 2016 au Québec. Des milliers de femmes et d'hommes sont bénévoles. Toutes ces personnes méritent notre reconnaissance. Faites partie de celles et ceux qui leur disent merci en les proposant pour le Prix Hommage Bénévolat Québec, l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Les lauréats et les lauréats seront connus lors de la soirée de remise des prix au printemps 2017. La personne bénévole s'engage à mettre de son plein gré son temps, sa motivation et ses compétences à la disposition d'un organisme ou de personnes de sa communauté afin d'atteindre des objectifs collectifs ou personnels. Son engagement est désintéressé et volontaire, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à obtenir directement ou indirectement une rétribution. Sa participation volontaire prend la forme d'un engagement moral qui peut être ponctuel ou répété, temporaire ou récurrent. L'organisme doit avoir adopté de bonnes pratiques favorisant l'engagement et la motivation de ses bénévoles et est reconnu pour l'action de ses bénévoles dans la communauté. Pour déposer une candidature, il faut aller sur le site www.mess.gouv.qc.ca et là vous faites prix candidature. Le 211 dans la MRC de l'Assomption, et c'est une très bonne nouvelle, le centre de référence du Grand Montréal est très heureux de mettre en œuvre dès le mois de mars 2017 le service 211 pour les résidents de la MRC de l'Assomption. Les citoyens pourront aisément obtenir des informations sur les ressources socio-communautaires de proximité ou à l'extérieur de la MRC qui les aideront à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés par téléphone ou en consultant la banque de données en ligne des plus conviviales, a expliqué Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM, le centre de référence du Grand Montréal. Le 211 est un guichet d'information centralisé, rappelons-le, facile d'accès pour tous ceux qui cherchent des services communautaires ou publics, pour des personnes confrontées à des obstacles, ainsi que pour les intervenants et professionnels œuvrant dans les services de santé et des services sociaux et les autres agences gouvernementales, les entreprises et le milieu communautaire. Rapidement, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, le FAS, débrayera lors des journées de grève du milieu communautaire, aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà ce qui met un terme à ces Par Actualité du 7 novembre 2016. Merci de les avoir suivis. Merci à mon équipe. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une bonne journée. À demain, 11h30.